Chapitre 8. Sous la lune du colporteur. 1. La ville de Rizzi, à quelques 650 km à l'ouest de Mégis, usurpait complètement son nom. Roy de Pape l'atteignit trois nuits avant que la lune du colporteur, appelée par certains la lune de fin d'été, ne soit pleine, pour en repartir un jour plus tard. Rizzi était en fait une misérable bourgade de mineurs située sur le versant oriental des monts Vicastis, à environ 20 lieues de la passe du même nom. La ville n'avait en tout et pour tout qu'une seule rue. Pour l'heure, croisée d'ornières par les roues cerclées de fer du chariot, elle deviendrait un lac de boue trois jours après le début des tempêtes d'automne. On y trouvait le magasin général à l'enseigne de l'Ours et de la Tortue, où la compagnie Vicastis interdisait aux mineurs d'aller faire leurs emplettes, et celui de la compagnie, où personne, hormis les gueules noires, ne voulait faire les siennes. La prison, combinée avec la salle municipale, était flanquée sur le devant d'un moulin à vent, faisant également office de potence. Il y avait aussi six saloons des plus braillards, chacun plus sordide, abominable et malfamé que son voisin. Rizzi ressemblait à une sale tête rentrée entre deux épaules figées dans un haussement, les contreforts des collines. Au sud et au-dessus de la ville se trouvaient les bicoques déglingués où la compagnie logeait ses mineurs. La première bouffée de brise apportait la puanteur de leur latrine commune non chaulée. Au nord se trouvaient les mines, proprement dites, galeries dangereuses car mal étayées, des plus sommaires, qui, à une profondeur de 15 mètres, s'étiraient tels de longs doigts crochus en quête d'or, d'argent, de cuivre, et à l'occasion d'un gisement de sourfeu. Vu de l'extérieur, ce n'étaient que des trous perforant la terre rocheuse et nue, des trous comme des orbites vides, chacun avec sa pile de tilles et de déblais près de l'accès. Autrefois, il y avait eu des mines indépendantes, mais il n'en restait plus une seule, la compagnie Vicastis les ayant récupérées dans les règles. De Pape n'ignorait rien de tout ça, car les grands chasseurs du cercueil avaient pris part à ce petit tour de passe-passe. Oh, liesse et rareté! Ça avait eu lieu juste après qu'il se fût accoquiné avec Jonas et Reynolds. Oui, il s'était fait tatouer ses cercueils sur la main à 20 lieues d'ici, dans la ville de Wind, un trou vaseux encore moins reluisant que Rizzi l'a mal nommé. Ça remontait à quand, il n'aurait su le dire exactement, bien qu'il lui semblât qu'il devait en être capable. Mais quand il en venait à faire le compte du temps passé, De Pape s'y perdait souvent. Il avait même du mal à se rappeler son âge, parce que le monde avait changé et que le temps était différent à présent. Plus mou. Il y avait en revanche une chose qu'il n'avait aucune difficulté à se rappeler, les lancements douloureux qu'il éprouvait chaque fois qu'il cognait son doigt blessé quelque part venaient lui rafraîchir la mémoire. Cette chose, c'était la promesse qu'il s'était faite à lui-même qu'il verrait Dearborn, Stockworth et Heath, étendus raides morts, se tenant par la main comme une guirlande de poupées en papier découpée par une petite fille. Et il entendait bien exhiber la partie de son corps qui avait soupiré en vain après sa majesté, ces trois dernières semaines, et s'en servir pour arroser leurs cadavres au visage. Il réserverait la majeure part de son jet à Arthur Heath de Gilead, nouvelle Canaan. Cet enfoiré de sa mère, ce moulin à paroles rigolard, aurait droit à une copieuse inondation. Au soleil levant, De Pape franchit l'extrémité adret de l'unique rue de Rizzi, fit gravir au trot à son cheval le flanc de la première colline et s'arrêta au sommet pour jeter un regard en arrière. Hier soir, quand il avait parlé au vieux Saligo derrière chez Hattigan, Rizzi était en pleine effervescence. Ce matin, à 7 heures, elle semblait aussi fantomatique que la lune du colporteur, encore visible dans le ciel au-dessus des collines mises à sac. Il entendait les mines ting-tonquer, cependant. Tu parles. Ces beautés-là ting-tonquaient 7 jours sur 7. Pas de repos pour les brutes. Lui inclus, supposa-t-il. Il fit tourner bride à son cheval d'une main lourde et machinale, l'éperonna de sa botte et prit la direction de l'est, songeant au vieux Saligo chemin faisant. Il l'avait traité de fort honnête façon, jugeait-il. La récompense promise avait été payée contre le renseignement fourni.
« Ouais !»
fit de Pape, ses lunettes brillant au soleil nouveau. C'était l'une de ses rares matinées sans gueule de bois et il se sentait gai comme un pinson. « Mais d'avis que le vieil enculé peut pas se plaindre !» De Pape n'avait eu aucun mal à remonter la piste des jeunes goujats. Ils étaient venus dans l'Est en suivant la grande route depuis la Nouvelle-Canaan, semble-t-il, et dans chaque ville où ils avaient fait halte, n'étaient pas passés inaperçus. La plupart du temps, on les remarquait, même s'ils ne faisaient que passer. Et pourquoi en aurait-il été autrement ? De jeunes gens sur de bons chevaux, sans cicatrices sur la figure ni tatouages de rigueur sur les mains, bien nippés, chapeaux dispendieux sur la tête. On s'en souvenait particulièrement bien dans les auberges et les saloons où ils s'étaient arrêtés pour se désaltérer, sans jamais consommer une seule goutte de liqueur forte. Ni bière, ni graffe non plus, tant qu'à faire. Ah ça oui, pour se souvenir d'eux, on se souvenait d'eux. De jeunes garçons sur la route, des garçons dont semblait émaner une sorte de rayonnement, comme s'ils venaient d'un temps antérieur et meilleur. « Je leur pisserai à la gueule », songeait de Pape en chevauchant, l'un après l'autre, messire, Arthur, Heath en dernier. J'en garderai assez dans ma vessie pour te noyer si jamais t'étais pas déjà dans la clairière au bout du sentier. D'accord, on les avait repérés. Mais ça n'était pas assez. S'il rentrait à Humbry avec seulement ça, probable que Jonas lui soufflerait dans les bronches. Mais il l'aurait pas volé.
C'est peut-être des gosses de riches, mais ça s'arrête pas là.
De Pape se l'était dit lui-même. Le problème était, qu'était-il d'autre ? Et enfin, dans la puanteur de merde et de soufre de Rizzi, il avait trouvé. Pas tout découvert peut-être, mais assez pour lui permettre de tourner bride avant qu'il n'atterrisse pour finir dans cette saleté de Nouvelle-Canaan. Il avait visité deux autres saloons, siroté de la bière coupée d'eau dans chacun, avant d'aboutir chez Hattigan. Il avait commandé une nouvelle bière coupée d'eau et s'était préparé à engager la conversation avec le barman. Mais avant qu'il se mette à secouer le cocotier, la noix qu'il convoitait lui tomba d'elle-même dans la main. Sous la forme d'une voix de vieillard, celle d'un vieux saligaud, d'une stridence à vous flanquer la migraine, ce qui est le propre des saligauds avec un verre dans le nez. Il parlait des jours anciens, comme les vieux saligauds le font toujours, et aussi de la façon dont le monde avait changé, et comme les choses étaient tellement mieux quand il était jeune. Puis, il avait lâché un truc qui avait fait dresser l'oreille à De Pape. Comme quoi, les jours anciens pourraient bien revenir, car n'avait-il pas vu trois jeunes seigneurs, il n'y avait pas deux mois de ça, moins, peut-être bien, et même qu'il avait payé à boire à l'un d'entre eux, même si c'était qu'un soda à la salse pareille. « Tu ferais pas la différence entre un jeune seigneur et un étron fumant ?» dit une jeune demoiselle à qui, semblait-il, il ne restait que quatre dents tout et pour tout dans sa charmante bouche. Un éclat de rire général accueillit cette sortie. Le vieux saligaud regarda à la ronde, vexé comme un pou.
« Ah, que si !»
dit-il.
« J'ai oublié plus de choses que t'en apprendras jamais, si fait !» L'un des trois au moins était de la descendance de l'aîné, car j'ai vu son père en voyant son visage. Aussi vrai que je vois tes grands pandards, Yolène.
Là-dessus, le vieux saligaud avait fait quelque chose que De Pape admira plutôt. Écartant le décolleté de la pute de saloon, il y versa le reste de sa bière. Les rugissements rigolards et les applaudissements nourris qui saluèrent son exploit ne purent entièrement noyer le croassement rageur de la fille, ni les cris du vieux quand elle se mit à le grêler de coups de poing et de gifles sur la tête et les épaules. Les cris du vieux furent au début une manifestation de son indignation. Mais quand la fille s'empara de sa chope et la lui fracassa sur le crâne, ils se transformèrent en hurlements de souffrance. Du sang mêlé à un restant aqueux de bière dégoulinait sur la figure du vieux saligaud.
« Fous le camp d'ici !»
glapit-elle, le dirigeant d'une poussée vers la porte. Plusieurs coups de pied vigoureux, décochés par les mineurs présents, qui avaient changé de camp aussi vite que le vent tourne, le poussèrent vers la sortie.
« Et t'avises pas de revenir ! T'empeste l'herbe, vieux susbite ! Tire-toi et emporte avec toi tes histoires maudites des dieux sur les jours anciens et les jeunes seigneurs !»
Ce fut ainsi escorté à travers la salle que le vieux Saligo passa devant le trompettiste préposé au divertissement des clients de chez Hattigan. Ce jeune et valeureux gars en chapeau melon ajouta le coup de pied de l'âne au fond de pantalon poussiéreux du vieux Saligo, se payant le luxe de continuer à jouer « Play, ladies, play » sans une seule fausse note. Puis, on le précipita dehors à travers les portes battantes et il s'étala la tête la première dans la rue. De Pape l'avait rejoint d'un pas tranquille et aidé à se relever. Ce faisant, il sentit l'haleine du vieux dégager une senteur âcre. Rien à voir avec la bière. Et aperçut les décolorations révélatrices d'un vert grisâtre au coin de ses lèvres. L'herbe, pas de doute. Le vieux dégueulasse devait y toucher depuis peu, et pour la raison habituelle, l'herbe du diable poussait gratuitement dans les collines, contrairement à la bière et au whisky qu'on vendait en ville. Mais une fois qu'on y avait goûté, la faim ne se faisait pas attendre.
« L'en plus de respect !»
dit le vieux d'une voix pâteuse.
« Et pas deux doigts de jugeote, non plus !»«
Si fait !» conva de Pape, qui ne s'était pas encore débarrassé des idiomatismes du bord de mer et de l'aplomb. Le vieux Saligo vacillait sur ses jambes, le regard levé vers lui, essuyant sans grande efficacité le sang de son cuir chevelu qui ruisselait sur ses joues ravinées.
« T'as de quoi me payer un coup, fiston. Souviens-toi du visage de ton père et paie un coup à un vieil homme. »«
La charité n'est pas mon fort, l'ancien, » répondit de Pape.
« Mais ça se pourrait que tu gagnes le coup que tu veux que je te paie. Viens un peu par ici dans mon bureau et voyons voir ça. »
Il ramena le vieux Saligo sur les planches du promenoir, le tirant à gauche des portes battantes du saloon et des rayons de lumière dorée qui filtraient par en dessus et par en dessous. De Pape laissa passer un trio de mineurs chantant à plein poumon
« La femme que j'aime est grande et mince, elle bouge son corps comme un boulet de canon !»
Puis, tenant toujours le vieux par le coude, le dirigea dans l'impasse qui séparait chez Hattigan de l'établissement de pompes funèbres voisin. Pour certains, rêvassa de Pape, le séjour à Rizzi pouvait foutrement se solder par un aller simple. Un petit coup dans le gosier, une balle entre les deux yeux bien plantée et couché dans une boîte, la porte d'à côté.
« Votre bureau !»
cacta le vieux Saligo, tandis que de Pape le poussait vers le fond de l'impasse, barré par une clôture en planche et un tas d'immondices. Le vent soufflait, et des odeurs de soufre et de phénol en provenance des mines picotaient le nez de Pape. Sur la droite, des bruits de bacchanal aviné résonnaient derrière le mur de chez Hattigan.
« Votre bureau est bien bonne, celle-là !»«
Si fait, mon bureau !» Le vieux l'observa à la clarté de la lune, qui voguait dans la portion de ciel au-dessus de l'impasse.
« Vous êtes de Mégis ou de Tepachi ?»«
L'un ou l'autre, peut-être. Ou aucun des deux, peut-être. »«
Je vous connais. »
Le vieux dégueulasse le regarda d'encore plus près, se haussant sur la pointe des pieds, comme quêtant un baiser.
« Pouah !»
De Pape le repoussa.
« Recule-toi un peu, papa. »
Cependant, il se sentit encouragé par la bande. Lui, Jonas et Reynolds étaient déjà passés par ici, et si le vieux se rappelait son visage, probablement qu'il ne parlait pas à tort et à travers d'individus qu'il avait vus bien plus récemment. Parle-moi des trois jeunes seigneurs, vieux père. De Pape frappa contre le mur de chez Hattigan.
Eux, là-dedans, sont peut-être pas intéressés, mais moi, si.
Le vieux Saligo le dévisagea d'un œil trouble, mais calculateur.
Je pourrais pas me récolter un petit peu de métal dans cette affaire.
Ouais, fit de Pape. Si tu me dis ce que je veux entendre, je te donnerai du métal.
De l'or?
Dis toujours, on verra.
Non, messire, la couleur d'abord, le blabla ensuite.
De Pape, prenant le vieux par le bras, le fit pirouetter et ramena son poignet, frêle comme un fétu de paille, à hauteur de ses omoplates décharnées.
Déconne avec moi, papa, et je commence par te casser le bras.
Lâchez-moi ! Écria le vieux, le souffle coupé. Lâchez-moi ! Je vais me fier à votre générosité, mon jeune messire, car elle se lit sur votre visage. Oui, 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 c'est vrai.
De Pape le laissa aller. Le vieux le zieuta prudemment, se frottant l'épaule. Au clair de lune, le sang séchant sur ses joues avait paru noir.
Trois qu'ils étaient, dit-il. Des gars bien nés.
Des gars ou des seigneurs? Lesquels, papa?
Le vieux dégueulasse avait réfléchi à la question. Le coup reçu sur la tête, l'air nocturne et s'être fait tordre le bras semblaient l'avoir dégrisé, temporairement du moins.
Les deux, je crois bien, dit-il enfin. L'un est un seigneur, pour sûr, qu'il le croit ou pas là-dedans. Car j'ai vu son père, et son père portait les mêmes revolvers. Pas les pauvres engins que vous portez, je vous demande bien pardon, je sais qu'on peut pas avoir mieux ces temps, mais de vraies armes, comme on en voyait quand mon père était petit garçon. Des grosses, avec la crosse en santal.
De Pape avait fixé le vieil homme, sentant une excitation s'emparer de lui, en même temps qu'une sorte de terreur respectueuse, malgré qu'il en ait.
Ils se sont comportés comme des pistoleros,
avait dit Jonas. Quand Reynolds avait protesté en disant qu'ils étaient trop jeunes, Jonas avait répondu qu'ils pourraient être des apprentis. Et présentement, il semblait que le patron avait eu probablement raison.
« Des crosses en santal ?»
avait-il demandé d'un ton insistant.
« Des crosses en santal, vieux père ?»«
Aïe !»
Le vieux avait perçu son excitation, perçu qu'il le croyait. Il se dilatait à vue d'œil.
« Un pistolero, tu veux dire ? Le père d'un de ces jeunes types portait les gros revolvers. »«
Ouais, pistolero. » L'un des derniers seigneurs. Leur race s'éteint à présent, mais mon père le connaissait assez bien. Stephen Descane de Gilead. Stephen, fils d'Henry.
Et celui que tu as vu il n'y a pas longtemps?
C'était son fils, le petit-fils de Henry le Grand. Les autres avaient l'air bien nés, comme s'ils étaient eux aussi de la race des seigneurs. Mais celui que j'ai vu était un descendant d'Arthur l'aîné, en ligne directe ou autre, aussi sûr qu'on met un pied devant l'autre pour marcher. Alors, j'ai gagné mon métal.
De Pape faillit lui dire oui, puis se ravisa, se rendant compte qu'il ne savait pas duquel des trois goujats le vieux parlait.
Trois jeunes hommes, rêvait-il tout haut. Tous trois de haut lignage.
Et ils avaient des armes.
Pas au vu et au su de tous les fouisseurs de cette ville,
dit le vieux dégueulasse avec un rire mauvais.
Mais pour en avoir, ça ils en avaient. Probablement cachés dans leur pactage, je t'en fiche, m'a montré mon billet.
« Si fait, dit De Pape, j'en doute pas. Trois jeunes hommes, dont le fils d'un seigneur, d'un pistolero, d'après toi, Stephen de Gilead. »
Et ce nom était familier à son oreille. « Si fait. »«
Stephen Deskaine de Gilead, c'est ça?
Et sous quel nom s'est-il présenté, ce jeune seigneur? Le visage du vieux s'était effroyablement déformé sous l'effort de mémoire qu'il fournit.
Théophile Deerstein, je m'en souviens pas très bien.
Ça va, je le connais. Et t'as bien gagné ton métal.
Vrai,
fit le vieux qui s'était rapproché à nouveau, l'herbe rendant son haleine douceâtre à soulever le cœur.
De l'or ou de l'argent, lequel, mon ami?
Du plomb, répondit de Pape, qui défourailla et déchargea à deux reprises dans la poitrine du vieillard, lui rendant un vrai service. Pour l'heure, il retournait à Mégis. Le voyage serait plus court maintenant qu'il n'avait plus besoin de faire halte dans la moindre saloperie de bourgade pour poser des questions. Il y eut un bruissement d'ailes au-dessus de sa tête. Un pigeon, gris foncé, au cou cerclé de blanc, se posa en voletant sur un rocher juste devant lui comme pour se reposer. Un oiseau qui valait le coup d'œil. C'était pas un pigeon sauvage, songea de Pape. Un oiseau apprivoisé qui s'était échappé de sa cage. Il n'arrivait pas à imaginer que quelqu'un dans ce coin désolé du monde garde autre chose qu'un mâtin à demi-sauvage pour mordre au gras de la fesse tout voleur éventuel. Bien que les possessions de ses habitants valant la peine d'être volées soulèvent une autre question sans réponse. Mais tout était possible, supposa-t-il. En tout cas, du pigeon rôti serait un vrai festin quand il ferait étape la nuit venue. De Pape tira son arme, mais avant d'avoir pu armer le chien, le pigeon était déjà loin, filant à tire-d'aile vers l'est. De Pape n'en tenta pas moins de l'abattre. Parfois vous aviez de la chance, mais pas cette fois, apparemment. Le pigeon piqua légèrement, puis reprit de la hauteur avant de disparaître dans la direction que De Pape lui-même suivait. Il resta à califourchon sur son cheval un instant, pas vraiment dépité. Il pensait que Jonas allait être enchanté de ce qu'il avait découvert. Au bout d'un petit instant, il botta les flancs de son cheval et se mit à suivre au petit galop la route maritime de la baronnie en direction de l'est. Il revenait vers Mégis, où les garçons qui lui avaient causé des embarras attendaient qu'on les mette au pas. Ils pouvaient bien être des seigneurs, des fils de pistoleros, mais ces jours, même des gens de leur étoffe pouvaient périr. Comme le vieux Saligo n'aurait pas manqué de le souligner, le monde avait changé. 2. En fin d'après-midi, trois jours après que Roy de Pape eut quitté Rizzi pour gagner Ambry, Roland, Cuthbert et Alain allaient explorer à cheval le nord et l'ouest de la ville. À savoir, successivement, la longue pente douce de la Plomb, la vaste savane que les habitants d'Ambry appelaient la mauvaise herbe, et enfin les terres désertiques. Devant eux, clairement visibles dès qu'ils se trouvèrent à ciel ouvert, se dressaient des falaises érodées à moitié éboulées, partagées en leur centre par une fente vaginale, aux abords si déchiquetés qu'on l'aurait dit taillée à la serpe par un dieu mal embouché. Deux lieues et demie séparaient environ les falaises de l'extrémité de la Plomb. Aux trois quarts du parcours, les trois amis dépassèrent le seul relief géographique de ce plat pays, un monticule rocheux en saillie ressemblant à un doigt recourbé. Au-dessous, un petit tapis de gazon affectait la forme d'un boomerang, et quand Cuthbert poussa un hurlement pour entendre l'écho de sa voix renvoyée par les falaises devant eux, une bande de bafou-bafouilleux s'égaya en blablatant de ce trou de verdure et se mit à courir à contrario vers le sud-est, en direction de la Plomb. « C'est la roche suspendue, » fit Roland. « Il y a une source à sa base, la seule à des lieux à la ronde, à ce qu'on dit. » Ce furent les seules paroles qu'ils échangèrent au cours de cette chevauchée de reconnaissance. Mais une onde d'indéniable soulagement passa entre Alain et Cuthbert dans le dos de Roland. Ces trois dernières semaines, ils avaient plutôt fait du surplace, tandis que l'été, se déroulant autour d'eux, les laissait en plan. C'était très bien que Roland dise qu'il devait attendre, accorder la plus grande attention aux choses sans importance et recenser celles qui comptaient du coin de l'œil. Mais ni l'un ni l'autre ne se fiaient vraiment à l'air rêveur et détaché de tout qu'affichait Roland ces jours, comme une version très personnelle de la cape de Claire Reynolds. Ils n'évoquaient pas ça entre eux, c'était inutile. Tous deux savaient que, si Roland se mettait à courtiser la jolie fille dont la mère Thorin entendait faire sa gueuse, car à qui d'autre ce long cheveu blond aurait-il pu appartenir? Il se préparait de gros ennuis. Mais Roland n'avait pas mis son plumage de saison des amours, et pas plus Alain que Cuthbert n'avait aperçu de nouveaux cheveux blonds sur le col de sa chemise. Et quant à ce soir, il paraissait redevenu lui-même et s'être dépouillé de cette cape purement abstraite. Temporairement, peut-être. De façon permanente, avec un peu de chance. Il ne pouvait qu'attendre et voir ce qui se passerait. Au final, le cas trancherait, comme toujours. À une demi-lieue des falaises, la forte brise de mer qu'ils avaient eue dans le dos depuis le début de leur chevauchée tomba soudain. Et ils entendirent s'échapper de la fente, qui n'était autre que Veru Canyon, une piaillerie bourdonnante et atonale. Alain retint sa monture, faisant la grimace comme s'il venait de mordre dans un fruit d'une extravagante acidité. Tout ce que ça lui évoquait, c'était une poignée de petits cailloux qu'on malaxait fortement les uns contre les autres. Des vautours tournoyaient au-dessus du canyon comme si le son les attirait.
« La vigie aime pas ça,
Will ?» dit Cuthbert en frappant le crâne de ses phalanges.
« J'aime pas beaucoup ça non plus. Qu'est-ce qu'on vient faire par ici ?»«
Comptez, » dit Roland. On nous a envoyé tout compter et tout voir, et c'est quelque chose qu'il nous faut compter et voir.
Oh, si fait, dit Cuthbert.
Il avait du mal à retenir son cheval que la plainte basse et grinçante de la tramée rendait ombrageux.
1614 filets de pêche, 710 petits bateaux, 214 grands bateaux, 70 bœufs dont personne ne veut admettre l'existence, et au nord de la ville, une tramée,
quoi que ça puisse être, foutre diantre.
C'est ce qu'on va découvrir.
Ils avançaient de plus en plus englobés par le son, et bien qu'aucun d'eux n'aimât ça, aucun ne suggéra non plus de faire marche arrière. Ils avaient fait tout ce chemin jusqu'ici, et Roland avait raison, c'était leur boulot. En outre, la curiosité les poussait. L'entrée du canyon était passablement obstruée de broussailles, comme Suzanne l'avait appris à Roland. L'automne venu, la plupart ne seraient plus que du bois mort, mais pour l'heure, les branches empilées là portaient encore des feuilles, bouchant toute visibilité dans le canyon. Un sentier se faufilait au centre de l'entassement des fagots, mais il était trop étroit pour laisser passage aux chevaux, qui auraient renâclé devant l'obstacle de toute façon, dans la lumière déclinante. Roland ne distinguait pas grand-chose.
« On y entre ?» demanda Cuthbert.
« Que l'ange Tabellion note sur son grand rouleau que je suis contre, même si je ne me mutine pas. »
Roland n'avait nullement l'intention de les emmener à travers l'épine pour remonter vers la source du son, surtout en n'ayant qu'une très vague idée de ce qu'était une tramée. Il avait posé quelques questions à ce sujet ces dernières semaines, et obtenu peu de réponses valables.
Moi, je me tiendrai à l'écart, s'était borné à lui conseiller le shérif Avery.
Jusqu'ici, les meilleurs renseignements étaient encore ceux qu'il avait obtenus de Suzanne le soir de leur rencontre.
Tu peux dormir sur ta selle, Bert. On n'y entrera pas.
Bien,
fit Alain doucement, ce qui fit sourire Roland.
Un sentier gravissait le versant occidental du canyon. Il était étroit et escarpé, mais praticable s'il faisait attention.
Ils l'empruntèrent en file indienne, s'arrêtant à un moment donné pour dégager un éboulis. Ils balancèrent de gros éclats de schiste et de cornéenne dans la tranchée plaintive à leur droite. Une fois cela accompli et comme tous trois s'apprêtaient à remonter en selle, un gros volatile, une grouse peut-être, ou bien une poule des prairies, se leva au-dessus de la lèvre du canyon dans une explosion bruissante de plumes. Roland, portant la main vers ses revolvers, vit Cuthbert et Alain faire de même. Plutôt comique, étant donné que leurs armes à feu enveloppées de toiles cirées étaient dissimulées sous le plancher du baraquement du Barca. Échangeant des regards éloquents, ils poursuivirent leur route sans un seul mot. Roland découvrit que la proximité de la tramée avait un effet cumulatif. Ce n'était pas un son auquel on pouvait se faire. Bien au contraire, plus on se trouvait dans le voisinage immédiat de Veru Canyon, plus le son vous raclait le cerveau jusqu'à l'os. Il vous vrillait les dents autant que les oreilles. Il vibrait dans la pelote de nerfs en dessous du sternum et semblait entamé jusqu'à l'humeur aqueuse des yeux. Pour couronner le tout, ça vous entrait dans la tête et vous soufflait que tout ce dont vous aviez toujours eu peur vous attendait au prochain tournant de la piste ou au-delà de cet éboulis rocheux, là-bas, guettant le moment de se faufiler hors de sa cachette pour mieux vous sauter dessus. Une fois arrivé sur le plat, étendue stérile sur laquelle se terminait le sentier, le ciel s'ouvrit à nouveau au-dessus de leur tête, et cela alla mieux. Mais à ce moment-là, toute trace de lumière avait presque disparu, et ayant mis pied à terre et gagné le bord hautement friable du canyon, ils ne distinguèrent que des ombres. « Inutile !» dit Cuthbert d'un ton dégoûté.
« On aurait dû partir plus tôt, Roland.
Will, je veux dire. Quel crétin on fait !»
« Tu peux m'appeler Roland par ici, si ça te chante. Et on va voir ce qu'on est venu voir et compter ce qu'on est venu compter. Une tramée, comme tu l'as fort bien dit. Il n'y a qu'à attendre. »
Ils attendirent donc, et à peine 20 minutes plus tard, la lune du colporteur se leva au-dessus de l'horizon. Parfaite lune d'été, énorme boule orange, se détachant sur le violet du ciel assombri comme une planète fracassée. Sur sa face, claire comme jamais, on voyait le colporteur qui sortait de Nonne avec un plein ballot d'âmes couinantes. Une silhouette courbée dessinée par des ombres estompées avec un ballot clairement visible sur l'une de ses épaules, ployant sous le fardeau. La clarté orangée derrière semblait flamber comme les feux de l'enfer.
« Bah !» fit Cuthbert. « C'est pas un spectacle qu'on aime avoir avec ce son qui monte de là-bas en dessous. »
Cependant, ils tinrent bon, et leurs chevaux, qui tiraient régulièrement sur les rênes, comme pour leur signifier qu'ils devraient avoir déjà quitté la place. La lune monta dans le ciel, rétrécissant un peu ce faisant, et virant à l'argenté. Bientôt, elle fut assez haute pour projeter sa clarté vieille ivoire dans Veru Canyon. Les trois garçons regardèrent en bas, sans souffler mot. Roland ne pouvait se prononcer pour ses amis, mais quant à lui, il ne croyait pas qu'il aurait pu ouvrir la bouche, même sommé de le faire. « Un box canyon peu profond avec des parois à pic », lui avait dit Suzanne. Et sa description était on ne peut plus juste. Elle avait ajouté que Veru Canyon ressemblait à une cheminée couchée sur le côté. Et Roland supposa que c'était aussi la vérité, si l'on admettait qu'une cheminée effondrée pouvait se briser un tantinet dans sa chute et faire comme un coude en son milieu. Jusqu'à ce coude, le fond du canyon était des plus ordinaires. Le tapis d'ossements que la lune leur révélait n'avait rien d'extraordinaire non plus. De nombreux animaux qui s'égaraient dans les box canyons n'avaient pas assez de jugeote pour en ressortir, et dans le cas de Veru Canyon, la possibilité d'évasion était encore plus réduite suite au goulot d'étranglement des broussailles entassées à l'entrée. Les parois étaient bien trop escarpées pour l'escalade, exception faite d'un endroit situé juste avant ce petit coude. Roland aperçut là une sorte de rainure courant le long de la paroi du canyon, munie d'assez d'éperons en saillie pour assurer, peut-être, une prise. Il n'y avait pas de raison qu'il note cela. Il le fit de façon réflexe, comme il continuerait de noter toutes les issues potentielles le reste de sa vie. Au-delà du coude, il y avait sur le sol du canyon quelque chose qu'aucun des trois amis n'avait jamais vu auparavant. Et une fois de retour au baraquement, quelques heures plus tard, Ils tombèrent tous d'accord qu'ils n'étaient pas vraiment sûrs de ce qu'ils avaient vu. La dernière partie de Veru Canyon était masquée par une lactescence argent mat d'où s'élevaient des serpentins de fumée ou de brume. Cette masse liquide semblait se mouvoir léthargiquement, clapotant contre les parois qui la contenaient. Par la suite, ils découvriraient que brume et masse liquide étaient vert clair. C'était seulement le clair de lune qui les argentait. Sous leurs yeux, une forme noire volante, la même peut-être qui les avait effrayés auparavant, plongea vers la tramée dont elle rasa la surface. Elle happa quelque chose en plein vol. Un insecte, un autre oiseau plus petit. Puis se prépara à reprendre de l'altitude. Mais avant qu'elle n'y ait réussi, un bras liquide argenté s'éleva du fond du canyon. Un instant, le murmure crissant de cette purée de poids s'éleva d'un cran et ressembla à s'y méprendre à une voix. Elle se saisit du volatile dans les airs et l'entraîna vers le bas. Une lueur verdâtre et floue éclaira brièvement la surface de la tramée comme de l'électricité et s'éteignit aussitôt. Les trois garçons se regardèrent terrorisés. « Saute là-dedans, pistolero !» fit soudain une voix. C'était la voix de la tramée, la voix de son père, celle aussi de Martin l'enchanteur, Martin le séducteur, mais aussi, plus terrible encore, c'était sa propre voix. « Saute là-dedans et mets fin à tous tes soucis. » L'amour des filles ne te chagrinera plus et le deuil d'une mère perdue ne pèsera plus sur ton cœur d'enfant. Tu n'entendras plus que la rumeur de la cavité qui se creuse au centre de l'univers. Tu ne sentiras plus que la douceur spongieuse de la chair pourrissante. Allez, viens, pistolero. Deviens une part de la tramée. L'air rêveur, l'œil vide, Alain se mit à longer la pique. Il marchait si près du bord que les petits nuages de poussière que soulevaient ses bottes allaient flotter au-dessus de l'abîme où chutaient directement des amas de gravillons. Avant qu'il ait fait cinq pas, Roland la grippa par la ceinture et le tira en arrière sans ménagement. « Où tu crois aller comme ça ?» Alain fixa sur lui un regard de somnambule. Peu à peu, sa vision parut moins brouillée.
Je ne sais pas, Roland.
Au-dessous d'eux, la tramée murmurait, bourdonnait, grondait, chantait. Et ce son semblait se résumer à un marmonnement suintant et fangeux.
Moi, je sais, dit Cuthbert, où nous allons nous rendre tous les trois. On va rentrer au Barca.
Allez, venez, partons d'ici. Il regardait Roland d'un air suppliant.
Je t'en prie, c'est horrible. Très bien.
Mais avant qu'il ne les ramène sur le chemin, il s'avança jusqu'au bord et contempla la vase argentée fumante à ses pieds.
Et une tramée, une!
Dit-il avec une nuance de défi claironnante. Puis il ajouta à voix basse.
Maudite sois-tu.
3. Ils retrouvèrent leur sang-froid pendant la chevauchée de retour. La brise marine qui leur fouettait la figure était merveilleusement roborative après l'odeur de mort recuite du canyon et de la tramée. Comme ils gravissaient la pente de l'aplomb, suivant une longue diagonale pour ménager leurs chevaux, Alain dit
« Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Roland? Tu le sais ?»«
Non, en fait, je l'ignore. »«
On pourrait commencer par dîner, »
fit Cuthbert avec enjouement en tapant le crâne creux de la vigie pour bien marquer le coup.
« Tu sais bien ce que je veux dire ?»«
Oui, » convainc Cuthbert.
Et laisse-moi te dire quelque chose, Roland.
Will, s'il te plaît,
Maintenant qu'on est de retour sur l'aplomb, appelle-moi Will.
Si fait, très bien. Alors, laisse-moi te dire une chose, Will. On ne peut plus continuer comme ça à compter des filets, des bateaux, des métiers à tisser et des jantes métalliques. On commence à être à court de choses sans importance. Je crois que passer pour des crétins finis deviendra beaucoup plus difficile dès qu'on va s'intéresser au côté élevage chevalin de la vie de Humbry.
Si fait, dit Roland.
Il arrêta Flash et regarda en arrière le chemin qu'il venait de parcourir. Il fut momentanément enchanté par la vue des chevaux paraissant atteints d'une sorte de folie lunatique qui galopait et folâtrait dans l'herbe argentée.
Mais je vous le répète à tous les deux, il ne s'agit pas que de chevaux.
Est-ce que Farson en a besoin?
Si fait, peut-être.
Mais la filiation aussi. Et des bœufs aussi.
Mais il y a des chevaux partout.
Peut-être pas aussi bons que ceux-ci, je l'admets, mais dans une tempête, n'importe quel port fait l'affaire, comme on dit.
Donc, s'il ne s'agit pas de chevaux, alors de quoi?
Jusqu'à ce que je le sache ou que je décide qu'on ne le saura jamais, on continue comme avant.
Une partie de la réponse les attendait au barca, perché sur la barre d'attache et agitant sa queue gaillardement. Quand le pigeon sauta dans la main de Roland, ce dernier vit que l'une de ses ailes était étrangement déplumée. Un animal quelconque, un chat sans doute, avait dû ramper assez près de lui pour lui voler dans les plumes, estima-t-il. Le message collé à la patte du pigeon était bref, mais explicitait une bonne part de ce qu'il n'avait pas encore compris.
« Il faut que je la revoie », songea Roland, après avoir lu. Et il ressentit un accès de joie. Son pouls battit plus vite, et sous la froide clarté d'argent de la lune du colporteur,